You're gonna be fine. You're gonna be fine. You're gonna be fine. 'Cause it's all about fun.
Bonjour Sly.
Bonjour René.
Donc on va parler d'un album. Alors, le premier album ?
Pas vraiment, mais le premier en anglais.
Donc quand on pense Sly en termes de famille, on pense peut-être à la Family Stone. Là, on est plutôt dans la Family Beatles.
Oui, exactement. Sly and the Family Beatles. Oui, en fait, Sly, c'est un surnom qui m'a été donné il y a de ça très longtemps par le frère de ma copine d'époque qui s'amusait à angliciser tous les prénoms de ses copains. Donc lui, il s'appelait Bruno, il était devenu Bruns. Ouais, voilà. Et moi j'étais devenu Sly et j'avais oublié cette histoire et on s'est revu il y a pas très longtemps et il m'a dit tu te souviens quand même que c'est moi qui ai inventé ce mot là et j'ai dit ah mais j'avais oublié et en fait ça fait 20 ans qu'on me demande d'où vient ce nom là et je ne savais plus et il m'a rappelé que c'était lui et oui effectivement c'était lui.
Donc cet album, des chansons, on va dire, où on retrouve une vraie époque, enfin celle que j'ai connue tout au moins, des années 60, fin 60 et début 70, une inspiration. J'ai entendu par exemple une chanson qui démarrait un petit peu en intro, quelque chose qui faisait penser à I'm the Walrus par exemple.
Ça doit être Put on the Light, qui démarre par du mélotron. Alors, pour moi, elle fait plus référence à Strawberry Fields Forever.
Ouais.
Voilà. Oui, effectivement, c'est un hommage à Strawberry Fields, à John Lennon, qui est mon, allez, on va dire mon Beatle préféré, mais pff, c'est un peu comme choisir entre son père ou sa mère, mais c'est un peu mon chouchou, quoi. Et oui, bah bien vu. You say you wanna feel love, but what if it starts to hurt? You say you wanna feel that flame, people talk about, but what if it starts to burn? You say you wanna drink it all. Et donc l'ensemble de ces chansons, on va dire, c'est un ensemble assez varié. Avec des tonalités différentes, chaque chanson est originale, a son propre style, dans une ambiance qui fait... Alors, maintenant on dit peut-être rock, mais avant c'était plutôt pop. Comment on pourrait redéfinir un peu ça? Non, je crois qu'on continue à dire pop. C'est une musique qui a beaucoup... qui a émergé. Alors, effectivement, le tout début c'est les années 60, avec les Beatles, les Kings, les Who, etc. Puis... cette musique a eu tendance à un peu disparaître fin 70, début 80, derrière le rock progressif, comme des groupes comme Genesis, etc. Après, il y a eu Led Zeppelin, il y a eu tout ça, qui n'avait rien à voir avec les Beatles, c'est des chansons qui faisaient une face, Pink Floyd, voilà, qui faisaient une face de vinyle complète d'une chanson, quoi. C'est-à-dire, genre 25 minutes. Parce que les Beatles, justement, avaient des chansons de 2 minutes 30. Et puis, les années 80 sont arrivées. Alors là, ça a été l'époque boîte à rythme, musique beaucoup plus synthétique, qui ont donné parfois de très bonnes choses. Et puis, les années 90 sont arrivées, avec des groupes comme Nirvana, Oasis, Blur, voilà, et qui eux-mêmes se revendiquent souvent des Beatles. De toute façon, vous n'avez pas une interview d'un artiste d'aujourd'hui, même hors pop ou rock, même jazz, qui à un moment ne fait pas une référence aux Beatles. Donc, dans son interview. À un moment, ça vient, il va parler de la façon de McCartney de jouer de la basse, il va parler... à un moment, ça vient, presque à tous les coups. Le nombre de références qu'il y a dans les films... c'est juste incroyable, quoi. Et ces groupes comme Oasis, Coldplay,
Arctic Monkeys et ça, ouais, sont très influencés par les années Beatles, effectivement. Puis est arrivée la musique un peu plus électronique, à nouveau, mais d'une autre façon. Et plus tellement cette musique-là qui, moi, me manque. Donc, vu qu'elle me manque, je la fais moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Donc, effectivement, dans cet album, c'est vraiment presque l'ensemble des instruments, etc., que vous interprétez.
Oui. Quand j'ai commencé à être complètement fan de musique et de... En fait, pour moi, l'apprentissage de la guitare et du piano ont été concomitants avec l'envie de composer. C'est-à-dire que j'ai, en même temps que j'apprenais à jouer Stairway to Heaven, je composais une chanson en toute humilité. Hein. Évidemment, je ne me compare pas à des artistes comme ça, enfin une chanson comme Stairway to Heaven, mais je veux dire que c'est venu en même temps.
On peut ressentir au travers de tous ces instruments qui sont interprétés à la fois une opportunité, le self-made man qui fait tout, l'homme orchestre, il y a eu ça à un moment donné, oui. Des gens qui jouaient de tout, et encore maintenant, hein, même dans la musique électro, on voit des gens qui envoient leurs samples et leurs trucs et ça tourne en boucle. Donc on arrive à un moment de complexité technologique, on va dire, qui permet de faire des choses. Après, il y a des choix, donc comment on les fait?
Alors, c'est le problème de la... J'ai un home studio, je travaille sur un logiciel où c'est presque infini. Au niveau de... En fait, vous accumulez des pistes. C'est-à-dire que vous allez... Alors moi, je commence par mettre une guitare et un chant. J'enregistre. Ensuite, j'appelle ça témoin. C'est juste pour un souvenir. Ensuite, je viens l'améliorer. Ensuite, je vais mettre une boîte à rythme par-dessus qui sera plus tard remplacée par une vraie batterie. Je vais jouer la basse, le piano, les orgues, je vais faire tous les chœurs, ou presque. Parce que c'est bien aussi de mélanger les chœurs avec d'autres voix pour pas que ça fasse trop toujours la même voix. Et le truc, c'est que vous pouvez toujours vous dire « Et si je mettais un riff de cuivre là, à cet endroit-là Et si je mettais une sonnerie de téléphone Et à un moment, il faut se décider. Et tant que je ne suis pas sûr de moi, je ne la mixe pas, parce que je mixe aussi les chansons. Tant que je suis pas sûr de moi, je ne la mixe pas. Et il y a un moment où je me dis, allez, ça y est, cette fois, elle est finie. Je sais pas ce qui se passe. C'est une sorte de déclic où je me dis, là, si tu continues à rajouter des choses, tu vas perdre l'idée que tu avais au début. Tu vas perdre l'auditeur. Parce que quand on fait sa propre chanson et qu'on la réécoute, on entend toujours la mélodie première et l'intention première qu'on avait, mais on oublie que l'auditeur qui va l'entendre pour la première fois, il se peut qu'il entende une bouillie. Une espèce de truc incompréhensible parce qu'il y en a trop. Donc à un moment, il faut dire top, c'est fini, il y en a assez. La chanson est bien comme ça, elle me plaît. Elle est efficace, comme disaient les Français et les Anglais, elle est catchy. Parce que je dis ça parce que je fais des chansons pour qu'elles plaisent. Pour moi, faire une chanson en se moquant complètement de ce que va en penser le public, c'est n'importe quoi. C'est des considérations artistico-pseudo-intello qui ne me concernent pas. Moi, j'ai envie qu'elle démarre et qu'on fasse ça, ou qu'on frissonne, ou qu'on... ou qu'on, qu'on tape des... Voilà, j'ai envie de ça. J'ai vécu ça dans un bar. Je suis un grand fan de la CDC. Ça s'entend pas du tout, parce que je fais pas cette musique, mais je suis quand même un grand fan. J'étais dans un bar, passé des suites de chansons, de tubes. Et je peux vous dire que c'était des grands groupes qui passaient. Tout le monde était là, avec sa bière, en train de boire, voilà, tapoter des doigts, discuter. Là. Tout à coup, arrive ACDC. J'ai vu toutes les têtes en même temps qu'on fait ça. Alors, vous ne le voyez pas au micro, mais toutes les têtes se sont balancées en même temps. Et là, je me suis dit, waouh, quel génie. Le génie du riff, du truc qui fait que on peut pas, quel que soit notre âge, notre génération, ça vous emporte. Et moi, mon but, c'est ça. C'est vraiment quand... J'y pense quand je compose. Je me dis, non, là, je vais perdre l'auditeur si je pars là-dessus. Donc, j'y vais pas.
Alors, effectivement, AC/DC ou des groupes comme ça, ils savent capter l'audience, l'auditoire, les personnes qui sont là, qui vibrent au diapason, on va dire ça, qui rentrent dans l'esprit de la musique et qui s'imprègnent de ça et qui, quelque part, rend les choses un peu communautaires.
Oui, alors est-ce que vous dites ça de façon péjorative ?
Non,
au contraire. D'accord. Oui, alors tout à fait raison, tout à fait d'accord avec vous. Oui, oui, c'est ça, c'est une communion. Tout le monde est là pour faire la fête sur le même thème.
Donc le public, ça peut être un moment très important. Quand on n'a plus de public comme en ce moment live, on va dire, comment on se débrouille avec ça ?
Ben, on est frustré. On est frustré et impatiente. Alors effectivement, on peut, comme on a fait dernièrement, soit avec les Rabbits, soit pour mes chansons, faire des petits lives en direct sur les réseaux sociaux, ou pas en direct. C'est mieux que rien, mais c'est moins bien que en vrai.
Donc on peut réfléchir aussi à cette question, c'est comment on peut entretenir ce qu'on a vécu, d'une certaine manière, par le rapport au public, dans un moment dont on ne connaît pas la fin, où on est coupé justement de ce public, pour maintenir la fibre, s'il y a lieu.
Alors je ne pense pas que ça soit possible de la maintenir autant que par les concerts, parce que nous qui sommes des musiciens de scène, déjà, notre frustration de ne pas jouer nous assèche. Mais je vais vous redire la même chose. Bah, on peut essayer de l'entretenir le plus possible par les réseaux sociaux qui ont un rôle très bénéfique en attendant qu'on puisse se remonter sur scène pour de vrai.
Voilà, donc la passion, on va dire qu'elle est intacte pour Sly.
Oui, la passion, bien sûr, la passion est intacte. Je vibre pour la musique, je vis pour ça. La passion est intacte, mais la frustration est là quand même.
Sort un album comme ça, évidemment on attend des échos, c'est comme un accouchement d'une certaine manière.
Ouais, c'est tout à fait. C'est vrai. Souvent, on dit que c'est notre bébé ou c'est mon bébé. On utilise cette métaphore. Quelle était votre question en fin de compte?
En fait, c'était peut-être une précision, une perche vers une chanson qui aurait été composée justement dans un cadre un peu.
Ah. Donc, ok, vous voulez parler de la chanson When You Father Me? Donc oui, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'ai su que j'allais devenir papa. Et je me suis projeté dans l'avenir qui est le présent de maintenant. Je me suis demandé quel effet ça allait me faire, quand ça serait vrai, quand je pourrais la tenir dans mes bras, quand... D'ailleurs, quand j'ai créé la chanson, je ne sais même pas si je savais déjà que c'était une fille. Enfin, voilà, mais peu importe, puisque en anglais, ça s'entend pas. Et c'est une chanson dans laquelle je me suis amusé à transformer les noms communs en verbes. C'est pour ça que la chanson commence par if you sky me. Alors, on pourrait dire en français, si tu me ciel, I can always bird you. Je pourrais te oiseau.
Oisifier.
Ouais, je sais pas comment dire. Ouais, mais oisifier, il y a un côté oisif. C'est pas tout à fait ça. Je pourrais te oiseler. Je sais pas. voilà, je me suis amusé à faire plein de petits trucs comme ça avec des jeux de mots. If you rain me, I will bow you. Donc si tu me pleus, comme la pluie, si tu me pluies, I will bow you. Bow, c'est un arc. Et en fait, c'est le rainbow. Arc-en-ciel. Je me suis... Voilà. C'est vraiment le plaisir de jouer avec les mots et de faire un truc qui soit à la fois complètement un peu puéril, un peu enfantin et j'espère un peu poétique.
Donc jouer avec les mots, jouer avec les sons, jouer avec les émotions.
Oui, alors les sons, tout à fait. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Je peux refaire une phrase 150 fois tant qu'elle ne sonne pas comme j'ai envie qu'elle sonne, et notamment au niveau du rythme de la phrase. Si elle ne va pas avec la mélodie, même si elle a le nombre de pieds correspond, mais que c'est pas, j'arrive pas à la chanter, j'arrive pas à la chanter comme je voudrais, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et je finis par trouver. Et quand j'ai trouvé, soulagement. Et du coup, émotion, oui, forcément, parce que je sais, quand j'ai fait une bonne trouvaille, quand je chante, il m'est arrivé de refaire la prise, d'être obligé de refaire des bouts de phrases, parce que j'étais au bord de pleurer. Donc ça s'entendait, parce que quand vous pleurez, vous avez la gorge serrée, ben, c'est pas possible de laisser ça, quoi. Si c'est un live et que vous voyez le chanteur qui est sous l'émotion et qui est au bord de pleurer, ok. Mais si vous l'entendez seulement, vous ne comprenez pas ce qui se passe, on a juste l'impression que quelqu'un est en train de l'étrangler. Mais voilà, et là, dans ces moments-là, je sais que je tiens le truc qui me plaît et qui normalement ne devrait pas toucher que moi, parce que je suis un humain et que je pense que nous sommes tous connectés.
Donc le fait d'avoir interprété des chansons des Beatles dans le groupe, hein, The Rabbits, est-ce que ça n'imprègne pas complètement la personne, la psychologie de la personne qui joue, qui interprète, jusqu'à en faire une certaine forme aussi? On parlait tout à l'heure d'enfanter, mais un héritier.
Bah, si vous pouviez avoir raison. Une chose est sûre, c'est que 20 ans de Rabbits, donc 20 ans à jouer les Beatles, c'est comme si j'avais acheté une méthode pour faire des chansons. C'est comme s'il existait une recette. Alors évidemment, ça n'est pas vrai, il n'y a pas de recette. Mais quand même, ça vous met sur la piste. Des gens qui ont fait des si belles chansons forcément vous influencent du bon côté, ou alors c'est que vous n'avez pas écouté ce que vous chantiez. You're gonna be fine, you're gonna be fine, you're gonna be fine, 'cause it's all about fun.
Donc, dans The Day in the Life, il y a un grand point d'orgue à la fin.
Ouais.
Comment vous voyez, vous, votre point d'orgue, et jusqu'où vous pensez porter cette musique?
Le plus possible, le plus longtemps, avec le plus de monde possible. Ce point d'orgue, c'est une résonance, en fait, un point d'orgue. À la fin de The Day in the Life, on entend le piano qui s'arrête, on entend même le pianiste qui enlève son pied de la pédale, et on l'entend se lever de sa chaise et la chaise qui grince. Voilà, je veux aller jusqu'à la chaise qui grince.
Alors entre deux, il y a des gens que vous pouvez, je vais dire, pas convertir, mais à qui faire apprécier cette musique qu'ils n'ont pas forcément connue. Est-ce que vous sentez des yeux éblouis, intéressés, passionnés, et qui après se greffent à un univers que vous défendez?
Oui, que ce soit lors de concerts de mes chansons ou de concerts des Rabbits, de toute façon, ce qui nous tient debout, parce que sinon on serait mort de trac et on n'arriverait pas à chanter, c'est le public. Le public, c'est peut-être plus que 50%. D'un concert. Ouais, plus. Nous, en fait, on va donner ce qu'on nous donne. c'est un feedback. Et contrairement à l'idée reçue d'un public qui n'est jamais monté sur scène, quand le public nous donne et qu'on se relâche, on devient meilleur. Et il arrive même un moment où je pense que le public a plus le trac que nous. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'à un moment, je vais les haranguer et je vais leur demander de chanter un petit bout de chanson et tout ça. Et là, ils ont plus le trac que nous. Parce que ils nous... Mais grâce à eux.
Donc il y a une forme de mise en danger, peut-être contrôlée, et puis il y a une mise en émotion.
Ouais, mais c'est tellement bon. C'est l'adrénaline. Avant de monter sur scène, c'est un truc... c'est comme l'adrénaline, quoi. Il nous en faut. C'est comme les... Vous voyez, moi, par exemple, ce que je préfère dans les concerts, c'est l'intro. L'introduction d'un concert. C'est mon moment préféré. Le moment où les musiciens... Alors, quand je suis spectateur, je parle. Le moment où les lumières s'éteignent, les lumières de la scène s'allument tamisées, et une espèce de... Des fois, il y a un truc qui est là, hop, on voit des ombres chinoises qui apparaissent, voilà. Les gens commencent à reconnaître leurs idoles, et là, il y a un frisson qui démarre, et hop, ça démarre. Waouh, ben rien que d'en parler, vous voyez, j'en ai des frissons. Ça, c'est mon passage, c'est mon moment préféré.
Voilà, ben je pense que le mieux, c'est de continuer les émotions par la musique qui les amène sur scène ou en disque. On va écouter donc Sly. Merci beaucoup pour cette interview.
Ben c'est moi qui vous remercie, René. What if it starts to hurt? You say you want to feel nothing people talk about. What if it starts to burn? You say you want to feel the magic. What if it becomes real? Say you wanna feel the things as long as it's safe. What if it slips your mind? Put on the light.